Mystère de l'Église avec Mgr Marc Haillet.
Passons maintenant, après avoir approché le mystère de l'Église par les images et les symboles que nous avons un petit peu glanés dans l'Écriture sainte, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, essayons d'approcher le mystère de son origine, de sa fondation et de sa mission. D'abord, il faut bien comprendre que l'Église naît, nous l'avons déjà approché, cette vérité, dans le dessein de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc elle est vraiment l'œuvre de la Sainte Trinité. Et c'est de cette manière qu'elle va se réaliser progressivement dans l'histoire. On dira d'abord qu'elle est née dans le cœur du Père, hein, le principe sans principe, au sein de la Sainte Trinité. Lorsque le Père librement crée l'univers, et en particulier l'homme, hein, au sommet de l'univers créé, eh bien, il appelle les hommes qu'il a placés dans cet univers riche et multiforme qu'il a créé, il a appelé l'homme, ou il a décidé en tout cas, d'élever les hommes à la communion de sa vie divine. Vous voyez, le mystère de l'Église naît là. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme à son image et à sa ressemblance, ce qui lui donne un statut tout à fait particulier et transcendant par rapport à tous les autres êtres créés, qui fait de l'homme le sommet de la création, auquel sont ordonnées toutes les autres réalités créées, ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas les respecter, puisque il n'est pas le maître de la création, c'est Dieu qui est le maître de la création. Il n'en est que le gérant. Et on pourrait dire, en comparant la création à un jardin, comme c'est le cas dans la Genèse, eh bien, il est le jardinier, hein, de la création. Mais pour autant, si Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, c'est pour le faire entrer dans sa communion d'amour. Il a créé l'homme ad imaginem Dei, comme on dit en latin, avec cette préposition ad plus accusatif, qui exprime un mouvement. Non seulement Dieu est la cause exemplaire et efficiente de l'homme, c'est-à-dire que l'homme ressemble à Dieu, mais il est appelé à ressembler toujours plus à Dieu et à entrer ainsi dans son intimité pour l'éternité. Hein. Donc c'est là que naît l'Église. D'une certaine manière, l'homme est appelé et convoqué par Dieu, par création, pour entrer dans sa communion. Et déjà, ça, eh bien, c'est le fondement de l'Église. Voilà. Pour constituer, avec les autres hommes créés, sa famille. Hein. Il crée évidemment l'humanité, pas seulement comme des individus qui seraient reliés à lui et appelés à vivre en communion avec lui, mais il les crée hommes et femmes. Et donc, il les crée dans une communion originelle, qui est la source de toute la communion des hommes entre eux, dont la première expression est évidemment la famille. Et on peut dire que dans le couple originel Adam et Ève, eh bien, se trouve l'Église comme assemblée, comme rassemblement, pour appeler à entrer définitivement dans la communion de Dieu. Donc c'est pour ça que le texte du catéchisme de l'Église catholique nous dit que l'Église a été préfigurée dès l'origine du monde, qu'elle a été merveilleusement préparée dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'Ancienne Alliance, qu'elle a été instituée enfin en ces temps qui sont les derniers, par le Christ, et qui est manifestée grâce à l'effusion de l'Esprit-Saint, et au terme des siècles, elle sera consommée dans la gloire. Donc tout est dit, vous voyez. Elle naît dans le cœur du Père, qui appelle l'humanité à la communion avec lui. Elle sera instituée par le Christ, et on va voir pourquoi, parce qu'elle a été préparée dans l'Ancienne Alliance, et elle sera manifestée par l'Esprit-Saint au jour de la Pentecôte pour se réaliser, se déployer à travers toute l'histoire de l'humanité depuis la Pentecôte, jusqu'à la fin des temps où elle entrera définitivement dans cette communion divine, c'est-à-dire dans la gloire. Donc l'Église est préfigurée dès l'origine du monde, voyez. C'est intéressant parce que on retrouve, tel que le catéchisme catholique nous les cite, des formules extrêmement belles et fortes de la part des pères de l'Église. Hein. Le monde fut créé en vue de l'Église. Vous voyez, c'est énorme. Donc l'Église n'est pas un appendice, n'est pas facultative. Quand certains disent Dieu oui, mais pas l'Église, ou le Christ oui, mais l'Église non, c'est un non-sens. Puisque l'Église, c'est le projet de Dieu accompli. Hein. C'est la communion parfaite de l'homme avec Dieu. Et c'est pourquoi on verra d'ailleurs que la constitution Lumen Gentium développe une ecclésiologie dite de communion. L'Église est essentiellement communion, communion avec Dieu, évidemment communion entre nous. Donc, le monde fut créé en vue de l'Église, disaient les premiers chrétiens, voyez, ou autre expression magnifique, l'Église est la fin de toute chose. Donc, on ne peut pas imaginer l'Église comme simplement quelque chose d'accessoire. Quand on est chrétien, quand on est du Christ, eh bien on est nécessairement de l'Église. Si l'Église est dans l'origine du monde, comme la finalité même de la création de l'univers, et en particulier de l'homme, elle a été préparée dans l'Ancienne Alliance. Évidemment, le projet de Dieu, comme on le sait, a été d'une certaine manière brisé par le péché de l'homme, qui a séparé l'homme de Dieu, donc rendant apparemment impossible de la réalisation de ce dessein de Dieu d'appeler l'homme à la communion avec lui, et à diviser les hommes entre eux, à commencer par le premier couple originel d'Adam et Ève, qui se sont séparés par le péché, et qui a évidemment engendré ce chaos qu'est devenue l'humanité, où les hommes se sont entretués les uns les autres à partir du meurtre d'Abel, par son frère Caïn. Et c'est pourquoi Dieu, qui n'est pas mis en échec par le péché libre de l'homme, eh bien, convoque, à travers Abraham d'abord, et puis ensuite Moïse, un peuple qu'il a choisi pour préparer le mystère de l'Église universelle que nous connaîtrons à partir du Christ, vous voyez. Cette préparation lointaine du peuple de Dieu commence évidemment avec la vocation d'Abraham, quitte ton pays, ta parenté, vers le pays que je t'indiquerai, et en toi seront bénies toutes les nations. Tu auras une descendance qui sera plus nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable sur le rivage de la mer. Et c'est intéressant de se dire que Dieu promet un fils à Abraham qui est avancé en âge et dont la femme Sarah est stérile. Donc c'est une preuve que ce peuple naîtra de Dieu lui-même, par l'action de Dieu. Donc on voit bien que c'est Dieu qui accomplit son dessein et que le rassemblement des nations qui seront bénies en Abraham, eh bien, vient de Dieu, et naît de Dieu. C'est vraiment le dessein de Dieu qui s'accomplit. Et ce peuple sera constitué par Moïse, enfin par Dieu à travers les paroles de l'Alliance sur le mont Sinaï, qui scelleront cette première alliance de Dieu avec ce peuple d'Israël qui est appelé à être la préfiguration de l'Église définitive. Et malheureusement, comme on le sait, les prophètes viendront reprocher au peuple d'Israël d'être infidèle à l'Alliance, de ne pas parvenir à rester dans l'Alliance, de se séparer par le péché de Dieu et de multiplier les divisions au sein du peuple, entre les membres du peuple. C'est pourquoi cette alliance, cette première alliance, eh bien, deviendra caduque et Dieu lui substituera une nouvelle alliance annoncée précisément par les prophètes, qui annonce cette alliance nouvelle et éternelle qui sera instituée par le Christ à travers son sang versé sur la croix, comme on le sait. Donc du coup, eh bien, ça nous projette dans l'Église qui réalise pleinement le dessein de Dieu à l'origine du monde, préparée sans doute de manière chaotique par le peuple de l'Ancienne Alliance, mais qui sera finalement instituée par le Christ en ces temps qui sont les derniers, comme nous dit saint Paul.